Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
La nuit est tombée, l'ambiance est plus calme. Je suis heureuse de vous retrouver une fois encore pour cette nouvelle soirée de Libre Antenne sur Europe 1. Soirée de confidences, de partage et d'échanges. Soirée de mots, de silence, de larmes et heureusement aussi de sourires. Soirée unique, chaque fois recommencée parce que vous êtes unique et que chaque personne qui appelle pour se raconter a une histoire particulière. Même si bien sûr à travers chaque histoire nous pouvons nous retrouver ou retrouver la situation d'un proche. Rapports compliqués en famille ou au travail, deuil, addiction, traumatisme, maltraitance, dépression, stress, comportement répétitif, nous abordons ici tous les sujets qui vous concernent, tout ce qui fait la vie, votre vie. Et je me disais en arrivant ce soir qu'il y a un sujet qu'on a rarement, voire jamais abordé ici, ce sont les relations spéciales entre les jumeaux des triplés. Alors si jamais vous vivez ça, si vous avez des anecdotes à nous raconter, ça pourrait être vraiment intéressant. N'hésitez pas, pour me joindre sur cette libre antenne, un seul numéro de téléphone, le 3921. Cindy et Nicolas, qui ne sont pas jumeaux mais tout de même inséparables, sont prêts à vous accueillir au standard d'Europe 1. Vous savez que vous pouvez aussi participer à cette émission par SMS. Vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot nuit. Un SMS pour apporter un soutien, un témoignage, un conseil. Parce que cette libre antenne, c'est aussi une grande famille que je souhaite bienveillante et constructive. Une grande famille dont les membres sont tous différents et c'est ça qui fait sa force. Nous sommes ensemble, en famille et en direct, donc jusqu'à 1h du matin. Et le chef d'orchestre de cette soirée, c'est Romain Le Borgne. Et ça commence tout de suite.
Sur Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Et on commence avec l'appel de Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue. Alors on se connaît Marie-Claude parce qu'on s'est eu au téléphone il y a quelques semaines, je crois.
Oui, j'attendais mes résultats d'analyse.
Alors est-ce que pour les auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute, vous pouvez en quelques mots nous résumer ce qu'on s'était dit à ce moment-là, s'il vous plaît Marie-Claude?
En fait oui, j'ai eu un cancer du sein il y a 3 ans. Mmh. Et puis là, avec la mammographie de contrôle, ils ont vu quelque chose. Donc, j'ai dû attendre pendant un mois les résultats de la biopsie. Voilà. Et il s'avère que c'est une récidive.
C'est ça, c'est que vous m'aviez appelé, vous ne saviez pas encore si c'était une récidive ou pas.
Voilà, donc c'était l'attente qui était très dure. Ouais. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui vont chacun de leurs commentaires et... Ils ne s'aperçoivent pas de ce qu'ils disent. Ou parlent de gens qui meurent de cancer, etc. C'est affreux, quoi.
Ah ça, la maladresse des gens dans ces cas-là, c'est une catastrophe.
Exactement.
Il faut se mettre dans sa bulle tout de suite, ça c'est impératif. Dès qu'on a un souci de santé, il faut se fermer à tout ce qui est négatif et bête, tout simplement.
Oui, mais à ce moment-là, il ne faut rien dire, alors.
Ah bah, vaut mieux rien dire que de dire des bêtises, hein, ça c'est certain.
Non, mais je veux dire, faut pas dire qu'on attend, faut pas dire qu'on est
si.
Un peu...
Alors pardon, si. Je me suis mal exprimée. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais protégez-vous des réponses qui peuvent arriver. N'absorbez pas ce qui vous fait du mal, si vous voulez.
Ah oui, oui, mais justement, j'ai une réponse, alors j'ai toujours du mal avec ça.
C'est pour ça que je vous dis ça. Bon, dites-moi, alors concrètement, comment est-ce qu'on vous l'a annoncé? Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce, alors?
Toujours à la radio, à la radiographie, quand elle m'a dit oui, on va faire une biopsie dans 4 jours, donc ça c'était dur. Pareil, toujours pas de psychologie. Après, je l'ai appris par ma généraliste. Enfin, j'ai d'abord dû me battre parce que je trouvais que c'était long. Et en appelant à la radio, ils m'ont donné le téléphone du labo où il y avait les résultats. Et ils m'ont dit, depuis normalement, votre généraliste l'a eu par mail. J'ai appelé ma généraliste qui n'avait toujours rien reçu.
Alors c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de se battre comme ça.
Et en fait, elle me dit, je les aurai à 8h ce soir. Je vous appellerai demain matin. Je dis non, vous ne m'allez pas m'appeler demain matin. Vous m'appelez à 8h, sinon moi, je ne vais pas dormir. Et il s'avère qu'en fait, elle les a eus à 4h de l'après-midi. Et ben, elle m'a tout de suite dit, c'est comme avant, même cancer, donc on va certainement vous enlever votre sein, votre chaîne ganglionnaire, et peut-être qu'on vous proposera la chimio. Donc je me suis encore écroulée, quoi.
Alors rappelez-moi à l'époque comment ça s'était passé, le parcours médical, ça avait été quoi ?
J'avais de la chimio pour faire réduire la tumeur, parce qu'ils voulaient que je garde mon sein.
Oui.
Et j'ai eu donc chimio pendant au moins 6 mois. Après, j'ai été opérée et après, j'ai eu la radiothérapie. Bon, en fait, le traitement dure 1 an en tout, quoi.
Mais l'opération a servi à quoi, alors ?
À enlever le reste. Ils enlèvent toujours le reste de tumeur.
D'accord, mais pas le sein. Ils ont enlevé
non,
juste la tumeur. D'accord.
Oui, en fait, ils ont voulu protéger... Ils ont voulu garder mon sein, ils trouvaient que c'était mieux que je le garde si la chimio faisait effet.
Et vous aviez plutôt bien répondu au traitement à l'époque, alors ?
Oui, mais j'en garde un souvenir épouvantable.
Ah ben ça, j'imagine bien, oui.
Avec aussi, c'est ce que j'ai dit à mon chirurgien, là, heureusement, j'ai un chirurgien qui est très gentil, qui explique bien.
Ah, ça c'est important.
Oui, oui. Et en plus, il m'a dit non, on ne vous enlèvera pas la chaîne ganglionnaire. Si le TEP scan est bon, il n'y a pas de souci, on vous enlève le sein. Et par contre, il faudra que j'attende l'analyse du sein pour savoir si je dois faire de la chimie.
D'accord, ça, vous ne le savez pas encore ?
Non, ça, je dois encore attendre.
J'imagine
que... je vous appelle ce soir parce que mon opération, elle a lieu vendredi prochain. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine que je pourrai vous parler.
Non, mais j'espère que très vite, vous me rappellerez pour me donner de bonnes nouvelles derrière ça. Ce qui est bien, c'est que ça a été détecté. Maintenant, vous savez, parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre et de ne pas savoir.
Et puis là, j'ai un bon chirurgien.
Vous avez un bon chirurgien. Le protocole est lancé, donc ça y est, vous êtes sur les rails.
Oui, la semaine prochaine, je commence tous les examens. Oui.
Donc si je comprends bien, il y a peut-être 2 options. Soit l'opération est suffisante.
Voilà.
Soit ce sera opération plus chimio derrière.
Mais j'ai déjà dit au chirurgien que j'étais pas prête pour la chimio. Alors,
mais est-ce que dans ce cas, ça serait pas une chimio plus légère que la première fois, si une opération
avant ? Il a rien dit. Il sait pas parce qu'il est pas oncologue, donc.
D'accord, il veut pas se prononcer.
Ce sera après en réunion qu'ils décideront.
Parce que avant de vous faire des scénarios catastrophes, attendez quand même d'en savoir plus. Ça peut être une chimie aussi plus légère, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc c'est pareil, prenez les choses. Dans ces cas-là, quand ça va mal comme ça, il faut vraiment prendre les choses une par une.
Oui.
Je sais que c'est difficile, mais... Ouais.
Je lui ai dit aussi que je ne voulais plus avoir la même oncologue, il a dit « il n'y a pas de souci ». Bon. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, il était un peu effaré, oui. Et pareil pour la gynéco, parce que je vous avais dit aussi que j'étais une enfant violée.
Oui, tout à fait, on en avait parlé. Ouais.
Un prêtre, et il n'y avait qu'une gynéco à cette époque-là, et ça a été insupportable, quoi. Donc j'ai dit que je gardais ma gynéco à moi au cas où il y aurait un examen à faire.
Eh bien, c'est très bien de vous imposer comme ça, c'est parfait.
Oui.
De ne pas vous laisser bouffer par ces gens-là.
Exactement. Et là, j'ai dit au chirurgien la vérité aussi, je lui ai dit pourquoi.
Et alors ?
Je lui ai dit parce que j'avais été violée, que je vous dis, elle est très bien.
Bon, ça c'est une très bonne chose, c'est plutôt rassurant pour la suite, vous voyez.
Voilà.
La grosse différence, ça va être ça, d'abord vous avez l'expérience, et maintenant vous n'acceptez plus tout et n'importe quoi.
Exactement.
Vous gardez les rênes et c'est vous qui décidez, qui choisissez ce qui vous fait du bien.
Oui.
Et ça c'est vraiment important.
Oui, c'est là que
important.
J'ai vu quand même une différence depuis 3 ans.
Et oui.
Et puis, il s'est quand même encore passé plein de choses parce que moi, j'avais été interrogée par quelqu'un de la SIAZ puisque j'avais écrit, je leur avais écrit mon cas, j'avais tout décrit, donc j'étais interrogée. Et donc, il y a eu le résultat de la SIAZ la semaine dernière. Et la veille du résultat, j'ai reçu un courrier d'un des monseigneurs à qui j'avais affaire. La bouche en cœur, j'espère que je vous ai bien écouté, vous allez avoir les résultats de la SIAZ et si on pourrait en rediscuter par la suite. Alors là, on s'en a fait qu'un tour. Je n'ai pas dormi de la nuit et puis j'ai vu le mail de la journaliste et donc j'ai écrit à la journaliste qui m'a appelé le lendemain. Il m'a interrogé et elle est venue chez moi et je suis parue dans le journal là jeudi dernier.
Eh ben dis donc, vous prenez votre place maintenant, ça y est. Hein. C'est, non mais c'est chouette, je suis fière de vous Marie-Claude, vraiment.
Ah oui, non, mais je ne pouvais pas laisser passer ça, c'était épouvantable.
Donc, oui, mais il fut un temps où vous n'osiez pas.
Oui, oui, oui. Bah mais... oui, mais j'ai encore un truc où j'ose pas. Alors, j'ai un conseil à vous demander. Parce que il y a un cousin de mon mari qui devait venir là le samedi et la semaine prochaine. J'ai dit, bah non, de toute façon, je suis opérée, pas la peine. En fait, ils ont remis leur voyage d'une semaine et ils veulent venir le samedi d'après. Et moi, je ne sais pas comment leur faire comprendre, parce que c'est pas possible, quoi. Je serais trop fragile. J'ai déjà dit là, ben non, ils veulent quand même venir.
Marie-Claude, répétez après moi.
Oui.
Non.
Ah bah oui.
Est-ce que vous avez un handicap physique qui vous empêche de prononcer ce mot? Non.
C'est dingue, hein, que j'ai peur comme ça. Je sais pas.
Alors après, on pourrait en parler longuement de la peur. C'est toujours un manque d'amour, la peur. C'est la peur d'être rejeté quand on n'ose pas dire non. Mais surtout, une fois de plus, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et là, si vraiment il y a un moment de votre vie où il est impératif de vous dire oui à vous, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Ouais. C'est la, la priorité. En fait, c'est, quelles que soient leurs bonnes intentions, c'est vous qui choisissez.
Oui, parce que déjà, le samedi dernier, pour le samedi, j'avais quand même fait comprendre certaines choses. Ben, a priori, ils n'ont pas compris, quoi.
Eh bien, vous allez prononcer encore plus clairement, vous allez vous entraîner. Non, non, non. Non, mais c'est important, vous savez, c'est... Une fois de plus, moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit la liberté des autres s'arrête là où elle entame la mienne. Et là, franchement, en plus, dans un cas comme ça, vous n'auriez même pas besoin de vous justifier. La réponse est non. Non, merci.
Ah non, mais en plus, c'est même... ils incitent, hein, bah, c'est juste pour te rendre une petite visite. Bah...
Non.
C'est non.
Voilà.
Ouais.
Mais vous pouvez le dire avec l'intention, une intention qui n'est pas méchante du tout, qui est non, j'ai besoin de temps seul, j'ai besoin de temps pour moi, ça n'est pas le bon moment. Point.
Oui, ouais, voilà, c'est ça qu'il faut que je dise.
Ça n'est pas le bon moment. Je serais ravie de vous voir après. J'apprécie beaucoup votre... Je comprends l'intention qui est très positive. Merci. Merci, mais non merci.
D'accord.
Quand même.
Oui, c'est parce que ça m'angoisse complètement. Du coup, je...
Sinon, vous leur dites qui m'appelle, je vais leur expliquer. Non, mais des fois, qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont jamais été opérés, ils n'ont jamais été malades, et donc ils ne réalisent pas, en fait.
Alors, il y a ça. C'est vrai que ça fait partie de la maladresse des gens qui pensent que s'imposer... C'est montrer à quel point on est attentif. Non, être attentif, c'est demander à l'autre ce dont il a besoin. C'est pas lui imposer ce qu'on pense, nous, qu'il veut, vous voyez. C'est dire à quelqu'un qui est... C'est exactement comme après un deuil. C'est simplement dire à la personne, de quoi toi tu as besoin, qu'est-ce que moi je peux faire. Mais c'est pas dire, voilà, je vais faire ça et ça parce que je pense que c'est bon pour toi. Ça, c'est pas de l'altruisme, c'est de l'égoïsme. Ou c'est de la maladresse, on va dire, pour être gentil, mais bon... Là, je pense que c'est se donner bonne conscience aussi ce qu'ils font. Et c'est pour vous, c'est pas bon. Et si c'est pas bon pour vous, alors c'est non.
Ah non, non, moi je veux pas, je refuse. Je sais très bien comment vous êtes. J'ai, comme vous dites, j'ai besoin d'être seule, de repos, d'être tranquille, et bien, à mon rythme.
Osez exprimer vos besoins.
Oui.
Juste ça.
Ah oui, c'est vrai que depuis que je suis petite, je vais servir les autres. Donc.
C'est pour ça déjà, je suis fière de vous parce que je trouve que depuis la dernière fois, vous avez changé sur pas mal de points. Vous avez osé déjà dire au médecin. Bon, je ne vais pas dire le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vraiment. Donc, c'est pareil, là, vous pouvez être, en restant très poli, en disant « j'apprécie beaucoup votre intention, votre attention et votre intention, mais pour l'instant, ça n'est pas ça dont j'ai besoin, donc non, merci.
Oui, c'est bien ça. Ça me plaît bien.
Bon, ben, notez-le si vous en avez besoin, parce que c'est vraiment important de vous respecter, surtout maintenant. Et alors, deux choses, Marie-Claude. Est-ce qu'à l'époque, je vous avais conseillé un livre? Parce que j'ai pensé à vous, justement. Il y a un livre qui a été écrit par un médecin, une femme médecin, qui s'appelle « Quand le pouvoir de la pensée l'emporte sur les médicaments ».
Ah c'est, non, vous ne m'avez pas dit.
Je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Parce que bien sûr, il y a tous les médicaments et il faut les prendre. Et il faut prendre tout ce qu'on peut pour sortir d'un cancer. Mais il n'y a pas que ça. Et cette femme médecin, fille elle-même de médecin, la manière dont elle parle du moment où elle a compris la puissance de la pensée, c'est juste fabuleux ce livre. Quand le pouvoir de la pensée, quand le pouvoir de la pensée l'emporte sur les médicaments, c'est le titre.
Quand le pouvoir
de la pensée l'emporte sur les médicaments, mais comme toujours, je le mettrai sur ma page Facebook demain.
Oui.
Et ça a été écrit par le docteur Lisa Rankin, R-A-N-K-I-N. Et il y a énormément de guérisons confirmées par des preuves scientifiques dans son bouquin.
Ouais, oui.
La puissance d'accord. de la pensée et de la parole. Donc quand on dit non à l'autre, c'est aussi la puissance de sa propre parole. C'est-à-dire vous allez écouter votre corps et vous écouter.
Mm-hmm. Et la maladie... Oui, mais je pensais que j'avais déjà progressé. Je pensais pas du tout que ça allait me retomber dessus, quoi. Alors, comme quoi, j'ai pas assez évolué.
Ça veut dire qu'il y a encore des choses à apprendre. Vous avez déjà beaucoup changé, beaucoup avancé. Mais la maladie vient aussi nous dire qu'on ne s'écoute pas forcément assez. Et là, vous voyez, il y a encore des choses que vous n'osez pas dire. Donc, il faut aller plus loin. Et la deuxième chose, si vous le permettez, j'ai Claudine en ligne qui a vécu la même chose et qui aimerait vous dire un petit mot. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on la prenne ensemble?
Ah oui, il n'y a pas de souci, très bien.
Bonsoir Claudine.
Bonsoir.
Merci de votre appel. Marie-Claude vous écoute.
C'est Marie-Claude, je crois, qui est en ligne.
Marie-Claude est en ligne aussi, oui, tout à fait.
Marie-Claude, Marie-Claude, je voulais vous dire que j'ai 68 ans. J'ai eu un cancer du sein à 48 ans. Il n'y avait personne dans la famille qui avait eu de cancer, mais j'ai eu une succession de traumatismes et de choses difficiles à vivre. Parce que j'ai divorcé à 28 ans et j'ai élevé toute seule mes deux enfants alors que je n'avais jamais travaillé. Et quand j'ai eu ce cancer du sein, on m'a enlevé la totalité du sein. Mmh. Je dois vous avouer que c'est une épreuve quand même difficile. Et surtout quand, à l'hôpital, on vous enlève le pansement, que vous ne vous voyez plus qu'avec une cicatrice et un seul sein, c'est difficile à supporter. Mais depuis, je n'ai plus aucun problème. Ça fait donc 20 ans que j'ai été opérée et tout va bien. Mmh. Et surtout, n'écoutez pas ce que les gens vous racontent sur les cancers du sein, parce que le médecin m'a expliqué qu'il y a une grande quantité de cancers de sein complètement différentes les unes des autres. Quelqu'un va vous parler de son cancer qui ne correspondra pas au vôtre.
Pardonnez-moi, mais mesdames, je suis entièrement d'accord avec vous, Claudine. Il y a autant de cancers qu'il y a de gens qui en ont. Et c'est valable pour toutes les maladies. C'est pour ça que les généralités, il faut vraiment les éviter.
Voilà, il faut éviter. Il faut se replier sur soi, sur ses amis, sur les gens sur qui on peut compter. Et au pire, la solitude est encore meilleure que la compagnie de tout ce qu'on peut vous raconter.
Des gens toxiques.
Oui. Voilà, il faut moi, je me suis concentrée sur ce que me disaient les médecins. Et je vous assure, en 20 ans, je n'ai rien eu d'autre. Alors par contre, je me suis retrouvée, on m'a proposé de me reconstruire le sein. Je n'ai pas voulu, une opération, je ne voulais pas me lancer dans une autre opération parce que j'étais toute seule. J'aurais eu un compagnon, je l'aurais peut-être fait. Mais toute seule, je ne me sentais pas le courage. Mais j'avais un autre sein, donc mon sein gauche, on m'a enlevé. Il me restait le sein droit. Et mon sein droit était gros, long, moche. Quand je m'asseyais sur les toilettes, il me tombait sur les cuisses. Ça m'a gênée horriblement. Et je suis allée voir mon médecin qui m'a indiqué un chirurgien qui faisait de la chirurgie esthétique. Et c'est remboursé par la Sécurité sociale quand on a eu un cancer du sein, je vous l'assure. J'ai dû débourser peut-être 200 euros de ma poche. Et elle m'a refait le sein droit tout petit. J'ai un sein de petite jeune fille de 12 ans. Et je vous assure que je suis bien parce que je ne mets plus de soutien-gorge. J'ai que des petits caracos et je me sens bien dans mon corps.
Marie-Claude, vous disiez que vous non plus, vous ne voulez pas de reconstruction ?
Non, j'ai 65 ans et puis, parce qu'il m'a montré la silicone, dans 15 ans, il faut se faire réopérer, donc moi je cours pas après les opérations.
Donc c'est intéressant le témoignage de Claudine là.
Oui, et après il m'a dit, de toute façon la peau du ventre, je peux pas, vous avez pas assez de ventre.
Non, mais ça m'a fait rire. Si vous êtes gêné par l'autre sein, vous pouvez vous le faire reconstruire.
Non, moi ça va, il n'est pas gros.
Ça va. Bon, bah alors ça va, c'est bien. Sinon, si vous voulez le faire remodeler, c'est remboursé par la Sécurité sociale à la suite d'un cancer du sein.
En tout cas, Claudine, merci beaucoup pour votre intervention, parce que ça, c'est rassurant de savoir que depuis 20 ans, vous allez bien.
Ah oui, depuis 20 ans, je n'ai plus rien. Je fais mes mammographies tous les deux ans, puisqu'il me reste un sein. Et d'ailleurs, le médecin regarde bien ma cicatrice et touche partout parce qu'il me dit que éventuellement après une cicatrice, il peut y avoir des problèmes. Mais j'ai eu aucun problème.
Aucun problème.
Ça fait 20 ans que tout va bien.
Voilà un témoignage positif qui nous a fait bien plaisir, Claudine. Merci beaucoup de votre appel.
Ah ben, je suis contente si je peux aider Marie-Claude.
Oui. Merci, Claudine.
Oui, merci, Claudine.
Oui, Marie-Claude, vous voyez, c'est effectivement, elle a raison dans plein de choses, Claudine, quand elle vous dit d'abord, les gens toxiques, il vaut mieux être seul que les supporter.
C'est pas facile, j'ai une famille toxique, moi. Famille toxique, après j'ai eu les curés, j'ai eu la psychiatre que m'a donné le curé, elle m'a démolie, j'ai dû aller consulter ailleurs, enfin,
oui. Moi, je trouve que vous avez appris déjà beaucoup de choses, justement.
Voilà.
Vous avez commencé à prendre votre place, à dire non, à dire je ne suis pas d'accord. Ça s'appelle vraiment prendre soin de soi, d'abord. Mmh. Et c'est ce que votre corps vous réclame en ce moment. Ouais. Et je suis persuadée que tout va bien se passer. Puis vous allez surtout rester dans une énergie positive, dans une visualisation positive. Vous allez déjà commencer à visualiser votre corps différent.
Oui, oui.
C'est important pour l'accepter. Vous allez commencer à y penser en fermant les yeux, en vous endormant, en disant voilà, j'accepte déjà ce que ça va être. Comme elle dit, quand on va retirer le pansement, eh ben, je serai différente d'avant, mais à l'intérieur, je serai la même. Finalement. Et ça va bien se passer parce qu'on va retirer, on va retirer le souci et ça se passera très bien après. Vous voyez, 20 ans de tranquillité, c'est formidable.
J'espère. Mais j'ai quand même été voir une thérapeute parce que j'étais trop stressée avec tout ça.
Bien sûr, c'est une bonne démarche.
Et elle m'a dit, que j'étais stressée en permanence, quoi, avec mon histoire. Le problème familial, le problème de l'église et le problème médical.
Il y a des choses à sortir chez vous, ça c'est sûr.
Ouais. Mais je l'ai sorti dans le journal aussi, ça m'a aidée.
C'est très bien. Vous voyez, tout ça,
Et elle m'a dit, la journaliste, que j'avais été courageuse parce que elle dit qu'il n'y a pas beaucoup de témoins qui veulent...
Qui osent.
Qui veulent le faire. Par contre, elle avait reçu des gens qui avaient râlé aussi contre l'article du Monseigneur, quoi. Qui n'étaient pas contents, mais qui ne voulaient pas...
Mais qui n'ont pas osé, comme vous, se dévoiler. Ouais. Vous voyez, Marie-Claude, la vie est en train de vous apprendre beaucoup de choses là, depuis 3 ans.
Ouais.
Vous grandissez.
Ouais.
Et moi, je vais vous envoyer toute mon énergie positive vendredi. Vous êtes opérée à quelle heure ?
À 10h, je crois.
Bon, je penserai à vous et je suis sûre que je ne serai pas la seule.
Ouais, c'est gentil.
Et vous penserez à ce livre, hein ? Quand le pouvoir de la pensée l'emporte sur les médicaments, ça va probablement vous aider dans cette reconstruction-là. Vous allez voir.
Il y a un truc, ils veulent me faire prendre de l'hormonothérapie aussi.
Je n'entre pas dans le domaine médical. Ouais. Si vous avez confiance en votre médecin, écoutez-le. C'est ça qui est important. Une fois qu'on a donné vraiment confiance à son médecin et qu'on se sent bien, alors il faut pouvoir ne plus se poser de questions et suivre ce qu'il vous dit. Et là, j'ai l'impression que vous allez être bien entourée cette fois-là.
J'ai vu... Pourtant, je n'ai pas choisi. Je suis vraiment bien tombée. Je me dis, c'est que je le mérite.
Vous voyez, c'est ce que je disais hier soir. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Et jusqu'à maintenant, vous accordiez peu de valeur. Et ça, c'est en train de changer.
Oui, c'est parce que j'avais ce modèle-là depuis que...
Mais bien sûr. Mais vous avancez à grands pas et je suis drôlement fière de vous, Marie-Claude.
C'est gentil.
Et j'attends avec impatience votre prochain coup de fil pour avoir de bonnes nouvelles.
D'accord.
Vous m'appelez dans quelques semaines pour me dire comment ça s'est passé et comment ça évolue ?
Oui, d'accord. Je vous tiendrai au courant.
Bon, je vous embrasse très fort et dimanche, vendredi matin, 10h, forte pensée et plein de belles énergies pour vous.
Oui, tout le monde m'envoie des bonnes ondes.
Je suis persuadée que toutes les auditrices et les auditeurs qui vous ont entendu ce soir vont le faire. Et moi, la première.
Oui, c'est gentil. Il faut que les victimes parlent.
Exactement. Il faut libérer de plus en plus cette parole, c'est certain. Et vous l'avez fait. Un grand bravo à vous, Marie-Claude. Je vous embrasse.
Oui, moi aussi. Et puis, bonne soirée à tout le monde.
Merci. À bientôt, Marie-Claude.
Oui, merci. Au revoir. Salut.
Vous aussi, laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et c'est Daniel que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Christophe, Maë, avant c'était merveilleux. Il est où le bonheur? Il est où? Voilà.
Alors oui, d'accord, pardonnez-moi, il rigole en régie parce que je vous avoue que c'est pas ma tasse de thé, Christophe Maë. Ça les amuse que vous disiez ça, parce que moi je râle depuis 3 minutes, mais bon, après chacun ses goûts. Du coup, ils sont contents, eux.
Mais là, c'est un coup monté. Hein.
Ah, racontez-moi.
Non, c'est un coup monté parce qu'ils m'ont dit que vous adoriez, et j'ai pas compris que c'était...
Ah, en plus, ils ont osé ça. Oh, oh, oh là là, ah, ils vont me le payer. Oh, je vais les punir, les deux petits, là. Vous voyez comme je suis maltraitée dans cette émission, vous êtes témoin.
Ah, mais je constate.
Je
suis désolée pour vous, franchement.
Ça va se payer, rassurez-vous. Bon, allez, plaisanterie mise à part. Bien. Daniel, qu'est-ce qui vous amène ce soir?
Qu'est-ce qui m'arrive? Tiens, déjà, enfin, je ne sais pas par où commencer. J'ai écouté la dame avant là, qui allait se faire opérer d'un cancer du sein. Oui. Je suis passée par là il y a une quinzaine d'années à peu près. Bon, ça, tout va bien à ce niveau-là.
Bon.
Et par contre, à l'époque, j'avais refusé l'hormonothérapie, ce qui avait fait hurler le professeur qui me suivait. Et parce que c'était 5 ans à prendre des hormones et je ne me sentais pas de taille.
C'était il y a combien de temps?
C'était il y a en 2006.
Parce que je pensais que l'hormonothérapie était plus récente que ça.
Non, et par contre, j'ai lu après, parce que moi, 5 ans de traitement hormonal, je ne sentais pas.
Ouais.
Et j'ai lu après des études comme quoi c'était pas sûr que ce soit vraiment efficace. Bon, je ferme la parenthèse. Mmh. Chacun fait ce qu'il veut et puis réagit à sa façon. Excusez-moi. D'ailleurs, pour anecdote par rapport à ce que je vais vous raconter après, mon compagnon à l'époque m'avait accompagné la veille de l'opération à la clinique. Et comme d'habitude, il avait eu un petit coup de colère. Il était parti en claquant la porte et m'avait laissé seule avec mon angoisse et ma peur.
Ah bah c'est charmant.
Ça, c'était la parenthèse pour vous expliquer pourquoi on appelle ce soir.
Quel homme merveilleux.
Et ben voilà. Donc cet homme merveilleux, ça fait quand même 21 ans que je le pratique.
Oui.
Lui, veuf, et moi, divorcé. On s'est rencontrés par un site de rencontre. Et puis, donc, au début, ça fonctionnait bien.
Il n'a pas toujours été comme ça, j'espère.
Des coups de colère, des coups d'énervement, des coups d'angoisse, des émotions qu'on ne contrôle pas. Et puis,
des blessures pas soignées, quoi.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais disons que pour la personne qui vit avec lui, c'est compliqué. Et c'était une relation où j'étais pas vraiment bien. Donc, j'ai...
Bah, y a de quoi ?
J'ai habité un an avec lui et je n'ai pas pu tenir dans ce genre de relation parce qu'on était, on avait des points communs, on s'aimait à une époque, mais trop rigide, trop dirigiste, enfin compliqué. J'étais pas vraiment heureuse, je me laissais pas aller, c'était compliqué. Donc j'ai vécu un an avec lui et il n'a pas trop apprécié, mais enfin ça s'est fait. Nous avions chacun notre logement, voilà, ça résolvait les problèmes. Ça résolvait les problèmes de nos enfants chacun. Moi, j'ai 67 ans.
Combien d'enfants aviez-vous chacun de votre côté?
Moi, j'avais 3 filles et lui, 2 filles.
D'accord.
Mais lui, par contre, 10 ans de plus que moi. Mmh. Et 10 ans d'écart, lui, 2 filles, moi, 3 filles. Et ça a toujours été très compliqué, la relation que j'avais avec mes enfants. C'était compliqué, quoi. Bon, vous pouvez constater que la relation n'était pas simple et ne portait pas vraiment ce que j'attendais, quoi. Donc, agacement, colère, reproche, il y a eu une trahison aussi à une époque, il est parti avec une autre personne, enfin, relation compliquée.
Et le mot est faible, oui.
Oui, et je me suis toujours accrochée.
Et pourquoi? Et oui, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez compris pourquoi? Qu'est-ce que vous espériez?
Alors, je me pose la question. Ou les habitudes, peur de la solitude, je ne sais pas. L'amour, bon, au départ, oui, je pense. Mais attachement, peur de la solitude, parce que j'avais commencé une histoire, parce que je voulais aller au bout. Pourquoi je me suis accrochée, c'est la question que je me pose.
Est-ce que vous avez espéré qu'il changerait?
Non.
Non, ça non. Vous étiez assez lucide pour comprendre que ça ne marche pas comme ça.
Non, mais j'étais lucide. J'étais lucide. Je savais qu'il ne changerait pas. Je savais comment ça se passerait. Il y avait des périodes où on ne se voyait plus, où on se retrouvait. Où je supportais mal sa rigidité, sa façon de vouloir m'imposer son rythme de vie. Mmh. Et dès que ça n'allait pas comme il allait, il se fâchait. Bon, c'était des grossièretés. Puis après, il se calmait. Hein. Et je supportais mal ce genre de relation, quoi. Donc, 20 ans compliqués, là, dernièrement, des projets qui se faisaient. Puis moi, je marche arrière tout le temps. Et là, nous venons de partir 3 semaines en vacances. Et puis là, aussi bien lui que moi, lui a d'autres projets. Je me dis, non, c'est plus possible, quoi. Faut arrêter là. Faut arrêter là parce que je ne suis pas bien, parce que...
Ça s'est mal passé?
Oui. Ouais. Bah, pour moi, oui. Oui, parce qu'il a fallu que je me plie à son emploi du temps, quoi.
Même en vacances?
Oui, oui, parce que sinon, il se fâche. Il se fâche, il est un peu grossier, il me gronde, il m'engueule, puis après ça passe. Mais moi, je ne supporte pas. Donc, je me suis adaptée à son emploi du temps. Moi, je suis une lesto, j'attendais qu'on fait chambre à part. J'attendais qu'il se réveille. Je le suivais dans sa façon de vivre. Il voulait faire la sieste, j'attendais qu'il ait fini, enfin, tout le temps. Puis j'ai tenu. Et ça a été compliqué. Puis en rentrant, il y a eu d'autres soucis. Lui, il veut changer de vie. Enfin, et puis c'est tout. Il faut arrêter là. Donc, je suis lucide. Je sais que ça ne m'apporte rien. C'est une relation que j'aurais dû interrompre depuis longtemps. Mais le souci, c'est que j'y pense tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça mon gros souci. Mmh. Et j'ai tout un dossier. Hein. Tout ce qui n'est pas passé. Parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Quand il y a un problème, j'écris pour évacuer. Et là, j'ai relu, j'en ai hein, des words depuis 20 ans. J'ai tout relu, j'ai des petits mots doux, enfin très désagréables que j'ai gardés.
Ça, c'est très bien, ça évite de se refaire l'histoire à l'envers.
Oui, mais je n'en sors pas. Ça fait 15 jours depuis qu'on est rentré de vacances que je remue ça sans arrêt.
Attendez, 15 jours, c'est très très frais.
Ah oui, mais ça, j'en ai marre.
Je trouve que c'est bon signe que vous en ayez marre au bout de 15 jours déjà.
Je remuais tout ça, mais oui, j'en ai marre.
Mais c'est un petit peu logique. Enfin, soyez indulgente avec vous-même aussi. 15 jours, il faut... Vous savez, le cœur a besoin d'un peu plus de temps pour comprendre ce que le cerveau a déjà compris.
Oui, mais c'est ça mon problème aussi. Un de mes autres problèmes, c'est que j'ai compris depuis longtemps. Je me suis accrochée, mais j'ai 67 ans maintenant. Je viens de perdre 20 ans avec un homme qui ne me convenait pas.
Non, alors attention. Là, c'est la grosse erreur qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'une fois de plus, ce que vous savez aujourd'hui, vous ne le saviez pas il y a 20 ans. C'est facile de dire aujourd'hui, j'aurais pas dû. Mais celle que vous êtes aujourd'hui, vous ne l'étiez pas il y a 20 ans.
Non, mais j'ai quand même perdu. J'ai 67 ans maintenant. J'ai plus beaucoup de temps devant moi, que j'ai plus le temps de refaire une vie, un projet.
Mais alors, vous n'allez rien refaire, vous allez continuer autre chose.
Mais autre chose, mais seule, quoi. Là, c'est...
Mais pourquoi ?
Parce que je suis...
Pardonnez-moi, il y a une micro-coupure, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit.
Je dis parce que je suis vieille maintenant.
Oh bah oui, c'est ça.
Ah, ouais.
Je suis vieille, je suis moche, je suis bête et je rencontrerai plus jamais personne. Là.
Non, je suis pas moche, ça va, j'ai assez confiance à mon physique.
Mais enfin, attendez, Daniel, à tout âge, on peut rencontrer quelqu'un. À tout âge.
Oui, mais le problème, c'est que là, je suis un petit peu dégoûtée de la
chose. Oui, là, c'est un peu normal. Ça fait 15 jours que vous sortez d'une relation qui a été, où vous avez servi de punching ball pendant des années.
Ah oui, tout à fait. J'ai été utilisée, je l'ai fait de bon cœur. C'était mon côté Mère Teresa, quoi. Mmh. Mais ça, c'est compliqué, quoi. De toujours remuer et de repenser. Ah, mais pourquoi j'ai accepté ça? Et puis, j'ai... Et tout me revient. Alors, j'ai écrit, j'avais oublié des choses. Quand on écrit, ça remet en mémoire, ce qui n'est pas excellent non plus.
Ah bah oui et non, je vous dis, c'est sûr que ça peut secouer, mais ça évite de se refaire un film à l'eau de rose, en ayant oublié la réalité.
Ah mais non, l'eau de rose, des bons moments, j'aurais même tendance à zapper les bons moments. On en a eu des bons moments. En fin de compte, les bons moments étaient toujours cachés.
Oui, c'est ça.
Il y avait un bon moment et derrière, il y avait un truc qui tombait qui faisait que c'était gâché parce que je pense que c'est un homme qui a ses problèmes. Mais les bons moments étaient toujours gâchés par un énervement, par une critique, par un jugement, par... par maladresse, par je sais pas, c'est, je peux pas, j'ai essayé de l'aider.
Et oui.
Et je...
Vous savez ce que je ressens, Daniel, si je peux me permettre de vous le dire?
Oui, permettez-vous, c'est pour ça que je vous appelle.
C'est que je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de blessures et que vous avez, avec ce côté Mère Teresa dont vous parliez, qui était une réaction à une blessure d'humiliation dont on pourra reparler plus tard si vous le souhaitez.
Oui.
Je pense que vous vous sentez quelque part coupable de ne pas avoir réussi à le réparer, ce monsieur. C'est comme si vous aviez dépensé beaucoup d'énergie pour ça et mien et que quoi que vous ayez fait, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous en voulez à vous-même que cette relation n'ait pas fonctionné et que lui n'ait pas réussi à surmonter tout ça.
Je ne suis pas sûre que je m'en veuille. Parce que j'étais très mal. Bon, pour sans rentrer dans les détails, ce monsieur, sa femme s'est suicidée et il a perdu le contact avec ses enfants pendant des années et des années. Donc, il était seul. Et j'ai toujours soutenu, aidé, oui, peut-être, en disant, bon, ben, moi, je suis là, je comprends qu'il ne soit pas bien, oui, c'est possible. Mais, mais je savais que moi-même, je n'étais pas bien dans cette relation, ce n'était pas l'homme qui me convenait.
Mais vous êtes restée quand même?
Bah oui, c'est ça.
Et ben voilà, et oui.
Je suis restée. Peur de la solitude, un de faire attachement, peur qu'il souffre aussi, qu'il soit seul. Quoi qu'il y ait des moments, il ne se gênait pas pour me jeter. Pas très élégamment d'ailleurs. Quand il allait vraiment très mal ou quand il avait d'autres projets. Et puis après, il revenait aussi. Enfin, c'était une histoire très compliquée qui ne m'a pas vraiment rendue heureuse, il faut être honnête. Hein.
Et c'est là où, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous vous en voulez à vous-même. D'avoir supporté tout ça presque pour rien, vous me dites.
C'est ça, oui.
Alors que ça n'est jamais pour rien, une fois de plus, c'est la vie, ça a été votre vie. Ça vous a aussi apporté beaucoup de choses, négatives, mais aussi des apprentissages.
Oh, oui, négatives, sûr.
Et oui, mais une fois de plus, c'est toujours facile après coup de dire si j'avais su, je n'y serais pas allée. Mais oui, mais on ne sait jamais avant d'y aller.
Oui, je reconnais que je m'en veux parce que dès qu'il y a eu, au bout de quelques semaines, quand j'ai commencé à subir des attaques verbales, des critiques, des colères en fait, qui passaient, hein, mais j'étais interloquée parce que j'avais jamais connu ça et puis je me disais, bon, c'est pas grave, ça va passer, et puis ça revenait.
Et puis au début, on est amoureuse, donc c'est.
Ah, c'est ça,
et
c'est
voilà.
Ça.
On se dit, c'est pas possible, ça va pas durer, ça va changer.
Mais si, ça dure.
C'est là que c'est traite, parce que c'est à ce moment-là qu'il faudrait tout de suite dire stop. Et c'est là où on arrive le moins à le faire parce qu'on est dans les sentiments.
Oui, on est dans les sentiments. Et puis après 20 ans de mariage, un divorce, on recommence une histoire, on y croit finalement. Et puis ça foire. Mais ça, on y croit, on veut y croire. Mais je suis pas triste, à la limite, je suis rentrée de vacances, je suis rentrée chez moi, je suis seule. Soulagée, libérée, mais alors tranquille. Ouf, c'est fini, quoi. Je ne connaîtrai plus jamais ce que j'ai connu pendant 20 ans, ces moments-là, qui me déplaisaient fortement, je me pliais à sa façon de vivre, en fait. C'était pas la mienne. Parfois, non. Donc, évidemment, ça se terminait mal. Et oui, j'ai libéré, mais pourquoi est-ce que je reviens en arrière? Je m'étais interdite d'ouvrir mon ordinateur pendant 2 jours pour ne pas relire ce que j'avais écrit.
Il y a une dualité chez vous, évidemment. Il y a cette partie de vous qui est soulagée, comme vous l'expliquez très très bien. Mm-hmm. Et qui dit, ça y est, je sors d'un enfer, finalement. Je sors d'une situation où j'étais pas heureuse.
Non, j'étais pas heureuse.
Et puis, il y a une petite partie de vous qui est encore un peu secouée. L'image que j'ai, là, quand je vous écoute, c'est... Vous savez, c'est comme si c'était un punching ball accroché à un truc en métal, enfin une chaîne, et que vous avez pris tellement de coups que pour l'instant c'est fini, mais ça bouge encore.
Oui, possible.
Vous n'êtes pas encore stabilisé, c'est-à-dire vous êtes encore dans les remous et les secousses de cette relation.
Oui, c'est ça. C'est ça qui
et c'est fatigant, et on se réveille la nuit, on cogite, et on se dit pourquoi ci et pourquoi ça. Et on relit les trucs, puis on se dit non, faut pas que je relise. Mais si finalement je les relis, mais non, je devrais pas. Enfin, voilà, c'est cette instabilité qui me semble un peu logique au bout de 15 jours. Quoi. C'est très récent. C'est très, très récent.
Ah oui, c'est récent. C'est récent. D'autant plus que c'était assez violent. C'était, on n'en a pas parlé. Il m'appelait tous les jours. Il ne m'a plus appelé. Déjà, j'ai trouvé ça. C'est le genre, pas très gentleman. Dans ces cas-là, on appelle en disant, bon, ben, on va... Là, plus rien, plus de nouvelles.
Jusqu'au bout, il vous aura déçu. Hein.
Oui, tout ça, oui, mais ça c'est rien, si vous saviez, je ne vais pas vous raconter là, parce que je vais être une personne qui attend. Allez, parfois c'est au niveau du gag, c'est vrai que parfois c'est, on se dit, mais c'est pas possible qu'un homme puisse agir comme ça. Oui, je pense qu'il y a des blessures, mais profondément auto-centrées, je pense.
Ah bah, de ce que vous en dites, et qu'est-ce qu'en disent vos filles si elles sont au courant de la rupture là?
Les relations avec mes filles sont compliquées. Il n'y a qu'une fille qui le sait parce que j'en ai parlé récemment.
Ouais.
Et elle est passée, elle m'a demandé de ses nouvelles. Je lui ai dit, écoute, on est rentrés de vacances. Je lui ai dit, je ne le vois plus et il ne me manque pas. Je suis soulagée. Elle me dit, ça fait combien de temps? Je lui ai dit, ça fait 15 jours. Elle me dit, oh là, c'est pas bon pour la suite de l'histoire. Mais je lui ai dit, il n'y a plus de suite de l'histoire. Mes filles ne l'aimaient pas.
Oui, c'est ça. Donc ça vous conforte en plus dans votre choix.
Mes filles ne l'ont jamais aimé, ça a toujours créé des problèmes. Enfin, c'est une histoire horriblement compliquée. Quand on s'est rencontrés, il m'avait dit au bout de 2 ans, je t'épouserai bien, mais je vais perdre de l'argent parce qu'il était veuf. Vous voyez ce jeu.
C'est beau l'amour.
C'est beau l'amour.
Donc vous voyez, c'est ça. Il y a juste une petite partie de vous encore qui est secouée, mais ça va se calmer très vite.
Ah non, mais je pratique beaucoup le second degré. Il y a des choses comme ça que je relis, je me dis, mais c'est pas possible, comment on peut. Bon, après, il y a eu d'autres choses aussi. Autre événement, je t'ai quitté, on avait passé quelques mois ensemble. J'ai dit, bon, allez, je vais revenir vivre avec toi. J'avais pris un appartement, j'ai dénoncé le bail, donc j'allais revenir. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est pas une bonne idée que tu reviennes. J'ai dit, attends, chez moi, j'ai plus de logement. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon, t'es débrouillard, t'arriveras à te retrouver un autre. Voilà.
Ah, mais il y a de quoi faire un livre.
Ah, mais c'est ce que j'ai dit, je vais faire un livre avec ça.
Non, mais pourquoi pas? Sincèrement, pourquoi pas? Parce que si vous écrivez aussi bien que vous parlez, ça peut être très sympa. Hein.
c'est vrai que j'ai un humour qui ne lui plaisait pas d'ailleurs. J'ai un humour assez noir au second degré, quoi. Mais c'est au niveau du gag. Donc, après cet événement, il m'avait proposé pour me ramener de m'épouser. J'ai toujours refusé. Et ensuite, avec les conditions, avec mes enfants, l'argent, enfin une demande. Peut-être qu'il m'avait dit épouse-moi parce que je t'aime, peut-être que j'aurais été assez bête pour le faire. Mais j'en ai 2 pages, hein, des conditions pour le mariage.
C'est dingue.
C'est au niveau du gag. C'est vrai que j'ai songé à l'écrire parce que je vous dis, j'ai de la documentation.
Et en même temps, je suis persuadée que cet humour vous aide à avoir affronté, vous a aidé à affronter tout ça.
Ah oui, non, mais c'est l'humour qui m'aide. Le seul souci, c'est que ça fait 10 jours que je suis en boucle. Bon, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Je vous écoute souvent en podcast, hein, le lendemain ou la nuit. Et là, en ce moment, j'écoute des podcasts, je ne me rendors pas et je me relève et je relis ce que j'ai écrit. Et je me dis, je deviens folle ou quoi? Si ça devient une obsession, là.
Alors, je sais que vous n'êtes pas prête à l'entendre pour l'instant, mais il y a Anne qui vous envoie un petit message en disant « Mon père s'est remarié, il avait 87 ans. » Vous voyez, tout espoir est permis.
À marier. Moi, j'ai une voisine d'un âge certain qui me dit « Marier, c'est comme mourir une fois dans sa vie, ça suffit.
» Non, mais tout ça, pour vous aviez compris ce qu'elle veut dire, Anne. C'est que pour l'instant, vous ne voulez pas entendre parler d'un avenir possible. Mais il peut y avoir de belles rencontres, il peut y avoir de belles choses qui se passent. Et je suis persuadée que c'est juste une période de transition. Et ce que je vous propose, c'est que dans quelques instants, on va laisser la place aux informations. Mmh. Et après, je vais réfléchir et vous donner peut-être quelques exercices à faire pour vous libérer de cette espèce de truc qui tourne en boucle là. Sans faire sortir le hamster de sa roue.
C'est ça, je l'ai le bouquin.
Oui, mais c'est ça, c'était pas ça que je pensais, parce que je sais que je vous l'avais conseillé.
Je l'ai depuis des années.
Est chouette, hein, ce livre.
Oui, il est chouette, mais ça, il n'empêche que ça ne fonctionne pas toujours. Quand même.
Ah bah, c'est un exercice. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est le livre qui s'appelle « On est foutu, on pense trop ».
C'est ça.
Par contre, c'est Serge Marquis, voilà, j'avais un trou de mémoire, c'est Serge Marquis. Non, là, c'est un exercice plus mental que je vais vous donner à faire, si vous le voulez, pour vous aider à commencer à vous libérer de ce lien. Je vous quitte quelques instants, Daniel, le temps des infos.
D'accord.
Et on
d'accord.
reprend notre conversation juste après.
D'accord, merci.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Merci d'avoir choisi la Libre Antenne d'Europe 1 pour accompagner votre soirée. Nous sommes encore ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler si vous avez envie de parler ce soir. Vous faites tout simplement le 3921 et vous vous laissez guider jusqu'à Cindy ou Nicolas qui vous accueilleront et vous guideront ensuite jusqu'à moi. 3921 pour le numéro de téléphone, pour réagir par SMS. C'est le 73921 suivi du mot nuit et de votre message. Et je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Adresse à laquelle vous pouvez aussi vous inscrire si vous souhaitez participer à l'émission, par exemple le week-end prochain. Un soir de la semaine, vous nous écrivez un petit mot, vous laissez votre numéro de téléphone. Et Cindy et Nicolas vous rappelleront vendredi, samedi ou dimanche prochain en fonction de vos disponibilités. Voilà, vous savez tout.
Sur Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Et je récupère Daniel. Daniel, êtes-vous là ?
Je suis toujours là. J'ai profité des infos pour regarder la date de parution dont on est foutu, on pense trop. 2015.
2015, d'accord.
Voilà.
D'accord. Moi, je pensais à un autre livre aussi qui est très bien écrit, avec pas mal d'humour. Ça s'appelle « Comment guérir du mal d'amour ». C'est Patricia Delahaye qui l'a écrit. D'accord. Et elle parle des étapes d'une séparation comme des étapes du deuil. Donc, elle parle du temps de la souffrance, du temps de la peur, du temps du bilan, du temps de tourner la page et du temps des nouveaux bonheurs. Et j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses. Au cas où ça vous intéresse, « Comment guérir du mal d'amour » de Patricia Delahaye. Je trouve que c'est un bouquin très sympa.
Patricia Delahaye.
Delahaye.
Delahaye, d'accord.
Avec un H au milieu.
J'ai noté, voilà.
Ça, c'est un bouquin assez sympa et intéressant quand on est dans votre situation.
Alors, j'ai un petit problème en ce moment, c'est que j'ai du mal à lire.
C'est par période, peut-être, non ?
Ah, mon esprit n'accroche pas ce que je lis. Je suis dans ce que j'ai écrit. J'en parlais avec une copine cet après-midi qui a un petit souci de santé. Elle dit je m'en sors parce que je lis beaucoup. Je lui dis tu penses pas ? Elle dit non, elle dit moi quand j'arrive à m'évader, quand je suis dans le livre, il n'y a plus aucun souci. Et je n'arrive pas à m'évader en ce moment dans la lecture.
Alors, justement, on va y venir. J'avais trois choses à vous dire. La première chose, c'est que parce que je sens que ça vous agace prodigieusement de ne pas arriver à ne plus penser.
C'est ça.
Hein, ça je sens bien qu'il y a un truc là qui vous agace beaucoup, 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 beaucoup. Malheureusement,
oui.
On ne peut pas gérer nos pensées, en tout cas pas comme ça, on ne peut pas les stopper, sinon ça serait.
Ouais.
Donc, la première chose à faire, c'est accepter. Quand une pensée arrive, c'est comme une émotion, ça ne sert à rien de la refuser, elle est là. Je pense à lui, non, je ne veux pas. Ben, le simple fait de dire non, je ne veux pas penser à lui, de toute façon, vous y pensez déjà. Donc simplement...
Oui. Je ne fais que penser à tout ce qui a été profondément désagréable. Et il a fait ci, il a fait ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais je ne fais que ces moments négatifs, quoi. Il y en a.
Eh bien, juste pour vous dire, de toute façon, ces pensées-là, vous ne pouvez pas les empêcher d'arriver.
D'accord.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas vous braquer et les considérer comme un nuage qui passe. C'est-à-dire, ok, j'ai cette pensée qui est là, je l'accepte comme une émotion. Mais j'accepte aussi qu'elle passe et qu'elle s'en aille.
D'accord.
Et moins vous vous braquerez, plus la pensée passera rapidement. Plus vous vous direz « Eh non, je suis encore en train de penser à ça, je veux... » Plus vous allez rester focalisé dessus, ça peut durer la journée entière. Si vous vous acceptez de vous ouvrir un tout petit peu en disant « Ok, c'est comme une émotion, elle est là. Ok, c'est comme un nuage, ça va passer. » Et vous laissez ça passer. Deuxième exercice, si vous le permettez. Puisque vous écrivez, on va faire l'inverse de ce que vous faites avec vos pensées. Vous allez vous poser trois questions. La première, qu'est-ce que cette aventure m'a apporté de positif ?
D'accord.
Pour rééquilibrer un petit peu aussi tout ce qui vous tourne dans la tête, dans l'autre sens. Deuxième question, qu'est-ce que je peux améliorer par la suite ? Dans mon comportement avec moi-même, avec les autres. Et petit trois, qu'est-ce que je ne veux plus jamais reproduire ?
D'accord.
C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous orientez vos pensées vers... déjà quelque chose de différent.
C'est noté.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Et
le troisième exercice, c'est un exercice un petit peu d'auto-hypnose qui consiste à vous mettre tranquillement dans un endroit les yeux fermés, de l'imaginer en face de vous et de laisser votre imagination créer un lien. Le lien tel que vous le percevez émotionnellement aujourd'hui, il peut être très moche, il peut être très sale, il peut être petit, je ne sais pas de quelle couleur il sera, quelle taille il aura, où il sera attaché, mais vous le saurez. Votre imaginaire vous proposera tout de suite une image.
D'accord.
Et vous prendrez un objet tranchant dans votre imaginaire, évidemment, et vous couperez ce lien-là. Et vous pourrez refaire cet exercice aussi souvent que ce sera nécessaire. Jusqu'à ce que votre inconscient ait compris que ce lien-là, c'est terminé. Ce lien qui est toxique, ce lien qui vous fait du mal, qui vous apparaîtra très probablement d'ailleurs de façon pas très sympathique au départ. Je doute que ce soit un collier de fleurs, par exemple, vous voyez. Ça me surprendrait. Mais vous allez symboliquement couper ce lien et nettoyer tout ce qui pourrait rester et ouvrir à la place un espace de liberté, de calme, de sérénité, de confiance, un espace dans lequel vous allez prendre votre place, votre nouvelle place.
D'accord. Hein ?
Ce sont des petites choses, mais ce sont des petites étapes qui permettent d'avancer dans la bonne direction.
Je voudrais maintenant un autre conseil. J'ai fait le récit de ces dernières années, de tout ce qui m'avait choqué, de tout ce qui nous différenciait, puis c'est tout, quoi. Donc c'était là sur mon bureau, puis à un moment j'ai dit, bon allez, je l'ai assez lu, relu, j'ai mis dans une enveloppe et je me dis, qu'est-ce que j'ai rangé, pour plus le voir. Et est-ce que je lui mets dans sa boîte aux lettres ou est-ce que j'abandonne? Je laisse tomber, ça sert à rien, de toute façon.
Je pense que la réponse est dans la question.
Ça sert à rien.
Non.
Ça m'a fait du bien à moi, finalement.
Ce qui est important, c'est que ça soit sorti.
C'est sorti.
Voilà.
J'ai le récit. C'est progressif ces dernières années, ce qui s'est passé, ce qui m'a choqué, ce qui m'a déplu, ce qui m'a fait mal, quoi. Et parce que on est connu, bref. Et donc j'ai relaté, et puis je me dis, bah, de toute façon, il va pas lire,
ben
ou il va parler de lui automatiquement. Il y a très très longtemps, en 2014, j'avais téléphoné à Europe 1. Il avait été abject et j'avais demandé l'avis, c'était Sophie Peters à l'époque, et j'avais enregistré que j'avais filé le... Et son problème, c'était qu'il n'était pas là pour se défendre.
C'est moi-je, quoi.
C'est ça. J'ai téléphoné pour parler de mon problème à moi. Et finalement, il n'a jamais écouté.
Mais c'est-à-dire que le fait de penser lui envoyer les lettres, c'est encore vous mettre en position d'attente, de dépendance. Oui.
D'accord.
Et pardonnez-moi si je souris, mais quand vous avez de l'humour, ça me rappelle une blague. Et je crois que j'avais mis sur ma page Facebook il y a quelque temps, c'était une citation qui disait « Mon psychiatre m'a dit d'écrire ce que je pensais aux gens qui m'ont fait du mal et ensuite de les brûler. C'est fait, mais maintenant, qu'est-ce que je fais des lettres ?» Elle m'avait beaucoup fait rire à l'époque, celle-là.
Je suis d'accord, c'est très drôle.
Au moins, je vous donne le sourire avec ça. C'était vraiment amusant.
Ah, mais je suis pas si bon.
Non, mais j'ai vu que vous l'avez le sourire.
Je suis perturbée, mais je ne pleure pas. J'ai beaucoup pleuré dans cette histoire. J'avoue, j'ai beaucoup pleuré. Mais là, je suis détachée à ce niveau-là.
Vous avez juste besoin de vous détacher encore davantage et d'avoir un peu de temps, parce que c'est tout frais encore, tout ça.
C'est ça.
C'est encore en sable mouvant. Il faut que ça se raffermisse.
Bon, par contre, je reconnais, je culpabilise un peu. Bon, il a 10 ans de plus que moi. C'est pas facile. Il va remonter.
Ah, c'est votre côté Mère Teresa qui remonte.
C'est ça. Il va remonter et ma fille me posait la question et je lui ai dit, écoute, je crois que je m'en fous maintenant.
Ah.
C'est comment il va, s'il est pas bien, parce que moi, je l'ai aidé, je lui ai porté des petits plats, je l'ai aidé dans certaines choses, quoi. Et je dépannais beaucoup. Et là, je dis finalement qu'ils se débrouillent, je m'en fiche. C'est pas bien.
Ah si, c'est bien. Si. Quand j'entends comment il vous a traité, évidemment, c'est bien. Mais c'est peut-être là qu'il y a un petit travail à faire chez vous. Quand je vous parlais tout à l'heure de culpabilité, c'est de ça dont je parlais. Il y a quand même ce petit truc qui reste que... Ah oui, mais quand même, est-ce que c'est pas bien? Si.
Vous oui, occupez-vous. Je pense que c'est ça. Et puis comme vous me disiez, et la précédente auditrice, savoir dire non aussi. Il faut aussi savoir dire non, c'est parfois compliqué.
Alors on va faire le même exercice, répétez après moi. Non.
Non, non, non.
Non, non, mais sans rire, non.
Non. Non.
Ah, déjà j'y crois plus là.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est... Avec l'intention qui va avec. Et non, c'est vraiment non. Ça n'est pas contre toi, c'est pour moi. La plupart des gens qui n'osent pas dire non ont toujours l'impression que c'est parce qu'ils pensent que l'autre le prendra mal. Mais la manière dont l'autre le prend, c'est son problème. Ce qui compte, c'est l'intention qu'on a en disant non. Si on a en l'intention de dire non pour faire mal à l'autre, alors là, ça devient compliqué. Si on a l'intention de dire non pour se faire du bien à soi, alors la manière dont l'autre réagit, ça ne nous appartient pas. C'est son problème.
C'est vrai.
C'est à lui de gérer ça, c'est pas à nous.
Tout à fait, oui. Et j'avance aussi, je reconnais qu'à ce niveau-là, pas seulement dans cette relation de couple, j'allais employer un terme sordide, parce qu'il y a des moments, c'était glauque quand même comme relation. Cette façon de vouloir diriger, puis moi qui essayais de me défendre et de me plier, c'était pas terrible, quoi. Je ne savais pas dire non, en fait.
Vous voyez, dans la liste des questions que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà ce que ça vous a apporté. Vous avez grandi beaucoup.
Oui, je ne savais pas dire non parce que j'avais peur. Je pense que j'avais peur qu'il n'y ait plus de relations. J'avais peur de me faire gronder comme un gosse parce que je ne savais pas dire non à des bêtises. Hein. Non, je ne veux pas manger à cette heure-ci. Non, je ne veux pas me lever tôt.
Et là encore, on met le doigt sur quelque chose que j'aborde souvent sur cette libre antenne, c'est les gens qui confondent être et faire. Vous faisiez partie de ces gens qui pensaient que pour être aimé, il fallait faire ce que veut l'autre, faire
c'est
ci,
ça.
Faire ça.
Mmh. Oui, mais j'ai fait ça avec mes enfants aussi. Hein.
Ah bah, de manière générale, quand on est comme ça, on l'est avec la terre entière.
C'est ça.
Et oui.
C'est terrible à ce niveau-là. J'avance, hein, je reconnais que j'avance, mais j'ai fait ça toute ma vie, quoi. Toute ma vie, j'ai fait ça, quoi, pour...
Oui, de manière générale, on le fait pas à mi-temps. Hein. On est comme ça à temps plein.
Et des gens qui nous entourent le savent, hein. Hélas.
C'est comme un panneau clignotant au-dessus de notre tête, c'est évident. Hein.
Hélas pour nous.
Et oui. Jusqu'au jour où on le comprend. Et là, je crois que vous êtes en train de le comprendre.
Ah oui, mais je pense que j'avance. Je vais faire des exercices cette nuit. Il y a un moment où. Où ça se passe très bien, c'est j'habite une petite maison de ville avec des voisins de chaque côté. Donc dans la journée, parfois je mets de la musique, je fais du ménage, ça dure pas longtemps. Mais la nuit, je peux pas mettre de la musique, je vais réveiller mes voisins.
Avec un casque.
Pas faux.
En plus, même il y a des casques sans fil, vous pouvez danser de loin.
Ah mais je danse toute seule, je me regarde.
Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Avec un casque sans fil, vous êtes tranquille.
Ah oui, c'est vrai aussi. Vous voyez, comme quoi, enfin, je suis un peu bloquée par moments. Mais oui, c'est vrai qu'avec un casque, c'est gérable. Là, avec de la musique, je reconnais que ça passe, quoi. Je ne refais pas l'historique de tout ce que j'ai subi. Attention, je n'étais pas une femme battue. Hein. Mais c'était une relation qui ne me faisait pas de bien, finalement.
Vous voyez, tout à l'heure, quand ils ont passé un disque qui ne me plaisait pas, j'ai mis mon casque au niveau zéro. Comme ça, j'étais tranquille.
C'est ça. Toutes les deux.
C'est pour ça que je pense au casque, là. Comme quoi, c'est bien pratique quelquefois.
Et tout ça, il faut savoir que finalement, quand on est accueilli dans votre émission, nous sommes accueillis par des gangsters,
exactement.
Qui nous manipulent, voilà. Voilà. Et moi, j'ai fait confiance.
Vous voyez, mais moi aussi, je leur faisais confiance. Ils font moins les malins maintenant, en régie. Hein. Ils se font tout petits derrière la vitre, là.
Ils ne s'attendaient pas à ce que je le dise.
Non, plaisanterie, mise à part, ils sont adorables tous les deux. Heureusement que je les ai, hein, je peux vous dire.
Non, mais c'est gentil, les blagounettes comme ça, c'est hyper sympa. C'est une bonne ambiance de travail.
J'ai beaucoup de chance de les avoir cette saison.
Je pense, nous avons beaucoup de chance d'avoir cette émission.
C'est donc, gentil, Daniel.
Et un podcast, c'est super. Bon, tout à fait, entre nous, parfois, il y a des sujets qui ne m'attirent pas. Donc avec le podcast, on peut...
Bah, c'est normal, c'est évident, on ne peut pas être intéressé ni par tout le monde, ni par tous les sujets. Et moi, je ne suis pas non plus performante avec tout le monde. Il y a des gens qui ne m'inspirent pas. Il y a des sujets où je ne percute pas forcément.
Je fais parfois une petite étude aussi. Je me rends compte que parfois, vous parlez plus facilement, plus longtemps. Vous allez très, très loin. Et parfois, ça va vite.
Ben, je ne suis qu'un être humain. C'est-à-dire que quelquefois, je sens ça, que je peux. Ça connecte, ça ne connecte pas.
C'est tout à fait ça.
Et je ne suis pas une tricheuse. Donc, je ne fais pas semblant.
Non. Et puis, je reconnais aussi qu'il y a certaines personnes qui s'expriment d'une façon qui est désagréable parce que leur voix ne nous convient pas, parce que leur façon de s'exprimer, parce que c'est des types de langage.
Non, ça, je passe au-dessus. Par contre, quand je sens que ça, je vais pas réussir à les aider pour différentes raisons, je j'insiste pas. Soit ils sont pas prêts, soit ça passe pas entre nous.
Oui, ou alors parfois.
Il faudrait beaucoup plus de temps aussi.
Oui, où il n'y a pas d'écoute.
Où il n'y a pas d'écoute. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je me rends compte que ça ne sert pas à grand-chose, j'abrège. Parce qu'une fois de plus, ça reste une émission de radio qui a ses limites. Ce n'est pas le même accompagnement que quand on a le temps de rester une heure, deux heures avec quelqu'un en face.
Là, je viens de dire, c'est vrai. Et hop, il m'est revenu tout de suite une idée. Il ne fallait surtout pas dire c'est vrai, parce que les gens détiennent la vérité. À chaque fois que j'employais cette expression, je me faisais reprendre.
C'est un jugement, mais enfin bon, on ne va pas non plus s'auto-flageller tout le temps. Hein.
C'est ça, non, mais c'est... Mon compagnon, à chaque fois, me reprenait sur des termes comme ça, qu'il n'aimait pas des expressions, et si je les employais, j'étais pas comme un maître, comme un maître d'école, finalement.
Eh bien, la cloche des vacances a sonné, c'est chouette, non ?
C'est ça, oui. Oui, mais je ne suis pas encore tout à fait en vacances. Là, j'ai des devoirs de vacances à faire.
Mais c'est ça, mais laissez-vous un petit peu de temps, c'est normal. Laissez-vous un peu d'espace. Oui. Autorisez-vous ça, au moins.
Hein. Je vais vous demander, je vous posais la question, à votre avis, ça va durer longtemps ? Et là, vous allez me répondre, je ne suis pas devin.
J'adore quand on fait les questions et les réponses. Vous voulez que je fasse une ordonnance pour vous dire que ça va durer une semaine ? Vous voulez quoi, une semaine ou deux semaines ?
Non, mais je reviens, c'est une petite opération chirurgicale bénigne. Et quand j'ai posé une question en disant, à votre avis, est-ce que ça va, combien de temps ça va prendre ? C'est ce qu'on m'a répondu. Donc au moment où j'allais poser la question, je me suis dit, c'est idiot comme question. On ne peut pas savoir, en fait. Mais j'ai des exercices à faire, je vais...
En même temps, c'est pas si idiot que ça de se dire à soi-même. Moi, je le fais dans certaines situations. De se dire, voilà, je vais m'accorder tant de temps. Je vais m'accorder 8 jours, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est moi qui décide. Mm-hmm. Pour pleurer sur mon sort, ou pour me poser des questions, ou pour être en colère, ou pour ceci. Mais après, c'est terminé. Ça peut être aussi un pacte avec soi-même. C'est de se dire, voilà, je m'accorde une petite souplesse, une marge, pendant laquelle, voilà, je vais pas être au top. Mais au bout d'un moment, c'est terminé. Je passe à autre chose. C'est presque de l'auto-coaching, vous voyez.
Oui, mais je sais qu'on ne change pas les gens. La colère, c'est contre moi que je l'ai surtout. Hein. Ça passera. De toute façon, on ne peut pas rembobiner.
Eh bien, vous savez ce que vous allez faire, Daniel ? Vous me rappellerez quand ce sera passé.
D'accord.
Et on comptabilisera le temps que ça a mis.
D'accord. Moi, je note.
Bon.
Je note la date, je note... mais je le ferai. J'espère vous rappeler très, très bientôt.
Eh bien, j'espère aussi. En tout cas... Merci beaucoup de votre appel. Je prenais vraiment bien, bien soin de vous maintenant.
Merci. Merci pour votre accueil, pour vos conseils et merci d'être qui vous êtes.
C'est adorable. Merci, Daniel. Je vous embrasse très fort. Et pour la petite histoire, sachez que Daniel, c'est mon deuxième prénom.
Ah ben voilà. Formidable. Très beau prénom.
Je vous embrasse. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et avant d'accueillir Florence, j'espère, Daniel, que vous êtes toujours à l'écoute, car j'aimerais partager avec vous un SMS de Mamie Tam Tam que j'aime beaucoup. Elle nous dit « Bonsoir, après des années de souffrance, j'ai donné un jour un carton à mon ex-mari et je lui ai dit que je lui redonnais toute la souffrance qu'il m'avait fait vivre. Pour lui, le carton était vide, mais pour moi, il était symboliquement bien rempli. Exceptionnel message et très belle façon symbolique de faire les choses. Merci Mamie Tam Tam pour ce beau message. » Et maintenant, c'est Florence que j'accueille. Bonsoir Florence.
Oui, bonjour Sabine.
Bienvenue à vous.
Oui, merci. Écoutez, je viens d'écouter cette personne il y a quelques moments qui va subir une mammectomie mardi prochain. Je ne me rappelle plus de son prénom, je suis désolée.
C'est Marie-Claude qu'on a dit.
Marie-Claude.
Oui.
Donc j'ai subi la même intervention il y a 13 ans à l'âge de 46 ans.
Oui.
Et je me porte aujourd'hui très très bien. Donc j'ai eu une ablation à l'époque, donc j'avais eu une mammographie 8 mois avant la découverte de ce cancer. Et en fait, j'ai eu un cancer in situ qui a nécessité donc une ablation sans...
Attendez, j'ai pas bien compris. 8 mois avant, il n'y avait rien sur la mammo ?
Il n'y avait rien sur la mammo, oui. Ah. Oui. Et en rentrant de vacances, je me palpais régulièrement, hein, comme on nous le préconise.
Mmh, bien sûr.
Et j'ai senti comme un endroit assez dur au-dessus du mamelon. Et puis, j'ai préféré consulter mon médecin traitant qui m'a dit « Bon, pour moi, c'est un petit ganglion, mais on va quand même passer une échographie, une mammographie. » Voilà. Et le diagnostic est tombé très, très brutalement. La radiologue me l'a annoncé très brutalement. Et puis...
C'est pas eux de faire ça, normalement, vraiment.
Oui. Et la machine a été enclenchée en 4 jours. J'étais chez le chirurgien. 3 semaines après, je subissais donc une première examen, une biopsie,
oui,
qui s'est révélée donc qui a confirmé le diagnostic. Et puis, 3 semaines après, l'ablation totale du sein.
Donc, pour vous, le processus, ça a été d'abord l'opération ?
L'opération. J'ai accepté l'ablation, j'avais le choix, on m'a laissé le choix.
Oui.
En me disant que derrière, si je ne le faisais pas, il y avait des risques. Je n'ai pas eu de chimio et pas de radiothérapie.
D'accord.
À la sortie de l'hôpital, le chirurgien est venu me voir et m'a dit « Madame, vous êtes guérie », à mon grand étonnement. Et après, ça a été tout un travail de reconstruction, autant psychologique que physique, puisque l'image dans le miroir me renvoyait tous les jours cette maladie. Hein.
Mais est-ce que vous l'avez faite, cette reconstruction ?
Pas du tout.
Non plus.
Pas du tout.
Ah oui, c'est surprenant, ça.
Oui, j'ai refusé, même à l'âge. Donc, j'ai oublié de dire qu'à l'époque, j'avais 46 ans et une petite fille de 12 ans.
Oui.
Donc, j'ai.
Sacrée épreuve.
Oui, je n'ai pas hésité une seconde. Je voulais voir ma fille grandir. J'ai deux autres enfants plus âgés. Et donc, j'ai accepté l'ablation sans hésiter. Voilà. Et puis, la reconstruction, je suis mariée en couple. Après de longues discussions avec mon mari, qui m'a réitéré son amour pour moi.
Ah, c'est beau, ça.
Il m'a dit, je t'aime comme t'es et c'est toi qui dois choisir si tu veux la reconstruction ou pas. Et le cheminement pour arriver à une reconstruction est assez pénible, apparemment. Hein, il y a de nombreux entretiens psychologiques, etc. J'ai pas voulu repasser par ces épreuves.
D'accord.
Donc, j'ai choisi de rester comme ça. Voilà.
D'accord.
Alors, après, j'ai vécu, bien évidemment, très différemment. Et j'ai vraiment fait un revirement total dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai absolument privilégié ma vie, orienté ma vie vers l'essentiel.
Et oui, comme
le retour
souvent.
Des choses simples. J'ai recommencé. Enfin, après avoir évidemment mûrement, digéré ce qui venait de m'arriver.
Oui, c'est ce que j'ai dit toujours. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se prendre le coup, un temps pour pleurer. Et un temps pour se dire maintenant, qu'est-ce que je fais de cette expérience-là ? Qu'est-ce que je dois en apprendre ? Qu'est-ce que la vie est en train de me dire ?
Voilà. Et surtout, j'étais à une époque de ma vie où j'avais beaucoup de soucis. Et en fait, une amie m'a dit, tu sais Florence, ce qui t'arrive, c'est ton corps qui te prévient. Ton corps t'alerte qu'il faut que tu arrêtes de te détruire de l'intérieur. Et j'ai pris ça comme vraiment un message. Je l'ai toujours gardé dans mon esprit.
Le corps ne ment jamais.
Oui. Et puis, un an après, j'ai décidé d'adopter un chien. Alors, ça peut paraître un peu banal, mais reprendre un chien, pour moi, c'était me tourner vers l'avenir.
Oui, je comprends tout à fait.
Voilà. Est-ce que j'allais vivre, hein, bien que le chirurgien m'avait dit que j'étais guérie. Est-ce que j'allais quand même vivre, pouvoir envisager un avenir à long terme ? Et donc, j'ai pris ce chien qui a bouleversé ma vie, puisqu'il m'a aidé à ressortir, à me reconstruire.
Ah, c'est formidable.
À travers des balades. Il s'appelle Bambou, il est toujours vivant.
C'est quel type de chien ?
C'est un cocker.
Oh, c'est mignon.
C'est un cocker. Et j'ai appris à aller me ressourcer dans la forêt.
Eh oui.
Et réécouter les choses simples, comme je vous disais tout à l'heure. Écouter la nature, le chant des oiseaux.
Ça s'appelle se reconnecter.
Voilà, se reconnecter. Voilà. Et je considère maintenant ce cancer comme une chance, puisqu'il m'a permis de changer de vie, de modifier mes comportements. Et puis, c'est pour ça que je vous appelle. Une chose incroyable m'est arrivée en septembre 2020, il y a un peu plus d'un an. J'ai lu par hasard une annonce dans le journal local. Un monsieur, dont je ne citerai pas le nom, je ne sais pas s'il serait d'accord pour que je le cite, qui est infirmier, a lancé un appel pour avoir des témoignages de personnes qui ont eu un cancer.
Dans quel but ?
Ben, je vais vous l'expliquer.
Oui.
Une personne Donc cette personne cherchait des personnes qui avaient été malades ou qui étaient dans la maladie et qui pourraient apporter leur témoignage. D'accord. Donc j'ai répondu.
Comme ça, ça a été un élan pour vous.
Oui, j'ai eu envie de répondre, bien que les années avaient passé et que j'étais vraiment sortie de la maladie. Mais j'ai eu envie d'apporter mon témoignage. Et puis il m'a répondu en me demandant de décrire quelque chose d'un peu plus complet. Et puis après, il a pas sélectionné, mais on s'est tous retrouvés en visio puisque on était dans la période du Covid, donc on ne pouvait pas se voir en vrai. On s'est retrouvés en visio, une dizaine de personnes, toutes concernées par la maladie, qui ont été ou qui sont concernées par la maladie. Et on a parlé de notre expérience, de notre vie actuelle, et on a abordé des thèmes dans nos discussions, surtout des thèmes qui ne sont pas abordés couramment, comme par exemple cette fameuse annonce de la maladie par les médecins. Le changement de comportement des proches, des amis, de la famille, la douleur dans les traitements. Enfin, on a abordé toutes ces choses-là. Et puis, cette personne qui avait lancé l'appel, eh bien, elle a recueilli tous nos témoignages et elle a écrit une pièce de théâtre.
C'est pas vrai.
Oui.
Quelle belle idée.
Voilà, elle a écrit une pièce de théâtre.
Mais c'était son métier ?
Non, il est infirmier.
Ah oui.
Il est infirmier. Il a écrit une pièce de théâtre qu'il nous a soumise au mois de septembre. Et il nous a dit, voilà, je vous propose d'être les acteurs de
et
cette
oui,
pièce.
Et oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qui va le jouer ?
Eh bien, c'est nous.
C'est formidable, ça.
Voilà. Alors, on est 8 comédiens. Alors, pour les personnes qui ont Facebook... Hein, On a créé parce que il y a des personnes qui sont pas en état de, si vous voulez, qui participent au projet, mais qui ne sont pas en état physique.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que tout le monde ne peut pas, évidemment.
Parce qu'ils sont malades, ils sont dans la maladie, donc ils ne peuvent pas. C'est trop éprouvant pour eux. Il faut savoir que dans les 8 comédiens qui joueront dans la pièce, il y a des personnes qui sont en plein dans la maladie. Alors ça part. Les âges vont de 25 ans à, si je ne me trompe pas, dans les... Bon, moi j'ai 59 ans, dans les 65 ans, je crois.
Hein. Qu'est-ce que c'est enrichissant comme partage, ça ?
Exactement. Et alors, on s'est rencontrés pour la première fois. On a commencé les répétitions il y a 3 semaines.
Attendez, pardon de vous couper, mais vous commenciez à parler d'une page Facebook.
Moi,
ce que je vous propose, c'est d'en parler sur la mienne demain, si vous voulez. De faire le lien.
Oui, d'accord.
Hein, pour que les auditeurs puissent la retrouver, cette page.
Oui, alors cette page Facebook s'appelle La compagnie Tempince pour moi.
Non, mais est-ce que vous voulez bien tout simplement aller sur la mienne, sur la page Sabine Marin Public, et le mettre en détail, ça sera peut-être plus simple.
Oui, d'accord.
Hein, comme ça, les gens accèdent à ma page plus facilement.
D'accord, mais je ne peux pas le faire tout de suite.
Dites-le si vous voulez, mais on pourra le refaire, vous le referez demain plus tranquillement sur ma page.
D'accord. Donc la compagnie t'en passe pour moi. Et donc toutes ces personnes qui jouent dans cette pièce sont ou ont été atteintes d'un cancer. Et après 3 semaines de répétition, donc au départ on a fait 2 séances de répétition avec des jeux de théâtre hein, pour apprendre à occuper la pièce, l'espace, etc. Et là nous venons de commencer à répéter la pièce. Et là je peux vous dire... que je viens de comprendre, que je vais vivre une aventure humaine incroyable. Parce que, alors, les personnes qui m'écoutent, là, vont peut-être se dire, oui, mais se retrouver avec des personnes malades ou qui ont été malades, ça doit être triste, ça doit être éprouvant. Eh bien, non.
Oh non, je pense au contraire, c'est une magnifique énergie, ça.
C'est une énergie, vous ne pouvez pas savoir. Les personnes on rigole et on a des crises de fou rire incroyables et on prend vraiment un plaisir à jouer. Enfin, normalement, notre première représentation aura lieu normalement pour Octobre Rose 2022.
Et ce sera où, dans quelle ville ?
Alors, nous sommes dans les Ardennes, à Charleville-Mézières.
Ah, c'est dommage.
Voilà.
Pour moi, c'est dommage.
Pourquoi ?
Parce que j'aurais bien voulu voir. Mais peut-être ce sera filmé, vous le mettrez sur Facebook à ce moment-là.
Bien sûr. On peut se déplacer aussi. On pourra peut-être se déplacer.
Et oui.
Oui.
Et c'est marrant, vous savez à quoi je pense? Je ne sais pas si vous connaissez la série qui s'appelle New Amsterdam.
Non.
Série dans un hôpital américain. Et il y a un épisode où il se passe exactement la même chose que ce que vous me dites là, sauf qu'il ne s'agit pas de cancer, il s'agit d'anciens combattants.
D'accord.
Et le psy de cet hôpital se rend compte qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et il leur propose de jouer une pièce dans laquelle chacun joue soit son rôle, soit le rôle d'un autre. Et ils font la représentation au cœur de l'hôpital. Et ça se termine évidemment après, bon, à l'américaine où ils vont tous beaucoup mieux et ça leur fait un bien fou, mais... C'est le même cheminement qui a été inventé. Je ne sais pas qui a pensé à ça dans le scénario, mais je trouve ça extraordinaire ce que vous me racontez là, vraiment.
Oui, ça va être une aventure incroyable.
Et pourquoi cet homme a pensé à ça? Comment il en est arrivé là, lui?
Alors, je sais qu'il a fait un projet déjà avec d'une pièce de théâtre avec qui portait sur le handicap. Mais donc, il avait monté la pièce. Et si j'ai bien compris. Avec le problème du Covid, le projet a avorté, si vous voulez.
D'accord. Parce que je me demande quel est son parcours de vie à lui pour en arriver à ce beau projet.
Lui-même n'est pas concerné par la maladie, mais sa femme a été concernée par la maladie.
Oui, sans doute. Il y a une sensibilité quelque part, évidemment.
Oui.
Ouais.
Et donc, j'avoue que lors des premiers témoignages, des premières visios que nous avons faites, donc la première a été très, très... très éprouvante, puisqu'on s'est tous présentés.
Ben, c'est un peu comme un groupe de parole, finalement.
Voilà, exactement. Ouais. On s'est présentés, ça a été très douloureux, à tel point, moi, j'ai avoué par la suite à toute la troupe, lors de nos visios, que lors de cette premier entretien, j'ai tellement été éprouvée, ça m'a travaillé pendant plusieurs jours, et j'ai failli ne pas continuer l'aventure.
Laissez tomber, je comprends, oui, ça secoue beaucoup. Hein.
Ça a réveillé en moi beaucoup de souvenirs et puis de douleurs.
Et en même temps, pour arriver à les travailler, il faut les réveiller, ces souvenirs-là.
Oui, voilà, et donc, voilà.
Mais vous ne regrettez pas une seule seconde d'être restée, j'imagine.
Ah non, au contraire. Et à chaque fois que je rentre chez moi, la famille me demande, ou mon mari me demande, alors... c'était bien, très super. Je vous dis, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on va passer des moments avec des moments déjà quand on commence à relire, puisque là on est dans la phase où on se met sur scène, si vous voulez, mais on lit le texte.
Oui, hein, ça a un nom qui m'échappe. Le filage, ça s'appelle le filage, je crois.
Oui. On ne connaît évidemment pas notre texte encore. Et déjà là, on a des moments de...
d'émotion.
Oui. Alors moi, dans la pièce, c'est moi qui... Parce que je suis bibliothécaire à la base, dans mon métier, et j'interviens dans les écoles et je suis raconteuse d'histoire. Je dis toujours, je ne suis pas conteuse, mais raconteuse d'histoire, puisque j'ai toujours un support du livre. Et dans la pièce, donc Bruno... qui est à l'initiative, je vais quand même dire son prénom, Bruno, qui est à l'initiative du projet, m'a donné ce rôle de raconteuse, c'est-à-dire que je vais raconter...
Ah, vous faites la voix off en même temps?
Je ne ferai pas la voix off parce que je suis sur scène.
Vous pouvez faire les deux, non?
Voilà, je vais m'appeler Rose,
oui.
Et c'est moi qui ai choisi mon prénom puisque j'ai eu un cancer du sein.
Et oui, forcément.
Hein, donc je m'appellerai Rose et je vais raconter mon histoire, une histoire... J'avais 30 ans. C'était le printemps, j'étais dans mon jardin. Les oiseaux chantaient. J'étais bien. Mais une petite voix me disait que quelque chose n'allait pas bien. Je dormais bien, mais je me réveillais, j'étais fatiguée. Moi qui étais une épicurienne, et qui adorais manger une plaque de chocolat en regardant les feux de l'amour, eh bien, je n'en avais plus du tout envie. Ça me provoquait même des nausées. Là, ce sont les premières phrases de...
Mais vous savez quoi? J'étais au premier rang et j'y étais, là. Hein. Et je ne dois,
oui,
pas, être, je dois
voilà.
pas être la seule.
Et donc, là, donc, c'est moi, Rose, qui vais raconter une histoire, mon histoire. Et après, vous allez avoir dans la pièce le cancer et la sagesse qui vont s'affronter. Et puis, cette jeune femme, Clara... qui va apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer, mais c'est moi en fait, Clara c'est moi, Rose et moi ne font qu'une même personne si vous voulez, sauf que moi je raconte histoire 10 ans après, voilà.
Vous êtes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
Voilà, voilà.
Je trouve ça exceptionnel, vraiment.
Voilà, et je voulais vraiment, parce que j'ai entendu le témoignage tout à l'heure de cette personne, j'ai dit il faut vraiment que j'appelle pour parler de notre projet, parce que c'est quelque chose qui...
Ah, j'ai vraiment envie de suivre ça de très près. Vraiment, s'il vous plaît, allez sur ma page Facebook Sabine Marin Public et mettez tout ce que vous pouvez. Demandez-lui l'autorisation si on peut avoir son nom. Mettez les liens vers le site. N'hésitez pas à mettre régulièrement des photos, à nous tenir au courant. Et surtout, si c'est filmé, à nous envoyer le film, qu'on puisse le partager.
D'accord. Je n'y manquerai pas.
Je trouve que c'est tellement, tellement extraordinaire. Mais tout de A à Z. Est-ce que c'est lui qui écrit ou est-ce que chacun a écrit un petit peu aussi pour...
Non, c'est lui qui écrit. C'est lui qui a écrit. Et à un moment, il y a un passage, un poème. Je me demande si ce n'est pas une des personnes qui joue, qui l'a écrit. Mais je n'en suis pas sûre. Voilà. Je suis très heureuse de vous apporter mon témoignage.
Moi, je suis très émue et je ne sais même pas comment vous dire merci pour ce témoignage. C'est vraiment... C'est un magnifique projet.
Voilà.
Et ça porte tellement les valeurs qui sont les miennes, qui sont des valeurs de ce que vous me disiez tout à l'heure, finalement, c'est que la maladie vient nous apporter aussi quelque chose.
Voilà.
Quand on arrive à l'accepter, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on avance?
Oui, qu'est-ce qu'on avance? Et alors, ce que je voudrais vous rajouter aussi... c'est que cette pièce ne sera pas une pièce triste.
Oh, bah je crois que j'ai bien
Alors,
compris, oui, bien sûr.
Nous voulons absolument nous porter, nous être porteurs de messages sur la prévention. Hein? On est dans un pays où on a beaucoup de chance d'avoir des campagnes de dépistage, hein, Octobre Rose, le dépistage du cancer du colorectal, etc. Et moi, pour mon cas personnel, c'est surtout pour ça que je fais ce projet aussi, pour être porteuse de messages, délivrer des messages et dire aux personnes, faites-vous dépister. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce que ça peut vous sauver la vie.
Oui,
combien de personnes avec qui je parle, des personnes jeunes, mais aussi moins jeunes, qui refusent tous ces dépistages par peur. Et j'ai autour de moi des cas de personnes, encore une là, qui vient de décéder au mois de juillet, une amie à moi qui est décédée, et son mari a découvert qu'elle ne faisait pas les dépistages. Il a retrouvé tous les papiers étaient rangés dans des placards et elle ne les faisait pas. Et elle est décédée d'un cancer du côlon. Et puis il n'y a plus rien eu à faire.
Et le comble, c'est justement parce qu'on a peur qu'on se tue. Parce que beaucoup de cancers, quand ils sont pris à temps, sont guérissables.
Oui,
et le paradoxe des gens qui ont tellement peur, c'est que finalement, ils se tuent eux-mêmes en faisant l'autruche.
Oui. La mammographie, par exemple. Si on prend la mammographie, combien de personnes refusent de faire les mammographies? Et pourtant, hein, beaucoup de personnes... On détecte chez elle un cancer et elles sont sauvées grâce à ça.
Bien sûr.
Voilà, et ça me met très en colère. Ça me met très en colère parce qu'on a beaucoup de chance dans notre pays. En plus, ce sont des tests de dépistage qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, on peut même pas dire qu'il y a une barrière.
Oui. Et vous faites bien de le rappeler, on râle beaucoup, on critique beaucoup, mais on a quand même beaucoup de chance en France.
Oui, bien sûr.
En tout cas, Florence, merci mille fois. J'aimerais vraiment, vraiment qu'on reste en contact.
Oui.
Sur la page et à l'antenne. N'hésitez pas à me rappeler pour me raconter dans quelques semaines, dans quelques mois, comment ça évolue.
Oui, bien sûr, pas de souci.
Me lire des petits passages comme tout à l'heure, parce qu'on y était instantanément.
Oui.
C'était un vrai bonheur de vous entendre.
Pas de problème. Je me ferai un plaisir de vous rappeler. Et puis, je vous mets les liens sur votre page. Donc, Sabine Marin.
Sabine Marin Public, vous verrez, elle est accessible.
Oui.
Et vous pouvez écrire dessus ce que vous voulez et y mettre les liens, surtout que les gens puissent vous suivre.
Je vous avais envoyé un petit... Oui, excusez-moi de vous avoir coupé. Je vous avais envoyé un petit SMS, enfin un petit message sur Messenger, si vous voulez regarder. ça résume bien ce que je viens de vous dire.
Alors, je suis désolée, je vais essayer, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui.
Il y en a plein auxquels je n'accède même pas. Ils sont souvent, je ne sais pas pourquoi, sur mon ordi, j'ai un souci avec ça. Et sincèrement, j'en ai entre 50 et 60 par jour, j'arrive pas. Avec la meilleure volonté du monde.
Je peux faire un copier-coller peut-être et le remettre sur votre page.
Voilà, ça sera peut-être plus facile pour moi de le trouver. Parce que la semaine, j'ai aussi beaucoup de gens dont je m'occupe en présentiel. Et accessoirement, j'ai aussi une famille, des amis, et j'ai besoin de tout le temps.
Voilà.
Et avec la meilleure volonté du monde, j'aimerais lire tout le monde, j'aimerais répondre à tout le monde, mais je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas.
Voilà.
Mais sur ma page, c'est plus facile.
Voilà. Et puis que les personnes qui écouteront mon témoignage aillent sur cette fameuse page Facebook et like notre page, parce que nous aimerions être extrêmement nombreux pour partager cette belle aventure et puis, que les personnes n'hésitent pas à eux-mêmes partager.
Page. Croyez-moi, après votre témoignage, il va y en avoir des likes.
D'accord. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Sabine, d'avoir pris la peine d'écouter mon témoignage.
C'est moi qui vous remercie mille fois, Florence. Et un grand bravo à ce Bruno et à toute cette équipe formidable que vous formez. Vraiment.
Voilà. Merci beaucoup.
Je vous embrasse, Florence. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Sabine Marin au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Bonsoir Jade.
Bonsoir.
Alors, je suis un peu embêtée parce qu'évidemment, vous avez vu l'heure.
Mais c'est par rapport à vous.
Ce que je vais vous dire, j'ai hésité à vous prendre, je sais que vous étiez en attente depuis un bon moment. Ce qu'on va faire, si vous le permettez, c'est qu'on va faire connaissance. Vous allez nous dire en quelques mots ce qui vous amène. Et si vous êtes d'accord, on se retrouve vendredi prochain en ouverture d'émission.
Il n'y a pas de souci.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Alors, je vous écoute.
Ce qui m'arrive, c'est que moi, je suis la mère d'un jeune qui est malade depuis 11 ans. Il est tombé malade à 17 ans. Et il a les schizophrénies.
D'accord.
Au début de la maladie, il a fait énormément de tentatives de suicide. Et après, bon, beaucoup de dépression. Et au début de la maladie, il a été dégoûté des hôpitaux parce que à 17 ans, on lui a donné d'un seul coup 12 médicaments.
Oh là là, oui.
Et il dormait 23 heures sur 24. Je ne connaissais pas grand-chose à cette maladie-là.
C'est-à-dire, avant ses 17 ans, il n'y a eu aucun signe?
Non.
Rien.
Et à 17 ans, il a consommé du cannabis et ça a réveillé la maladie.
D'accord.
Et voilà, après les tentatives de suicide, depuis 11 ans, moi je suis sous Xanax. Hein. Pas des grandes doses, mais quand même. Bon, on a vécu l'enfer avec toute cette maladie.
Mais vous êtes accompagnée par un conjoint, un mari, ou vous êtes seule?
Non, je suis divorcée, mais j'ai des enfants.
D'accord.
Et quand on a un enfant malade, j'en ai eu bien sûr, mais quand on a un enfant malade, c'est très difficile de refaire sa vie, surtout de ce type de maladie.
Oui, bien sûr.
Et c'est une maladie qui, en fait, englobe toute la famille. Et le pire, ce qui est arrivé, c'est que, bon, mon fils, il est très... C'est une maladie du cerveau, avant tout. Alors, qui touche, en fait, les lobes frontales, tout ce qui est les sentiments, bon, c'est la dopamine dans le cerveau.
Ouais.
Alors, bon... Mon fils, il est très fragile, bien sûr, mais il lutte énormément.
Il a quel âge aujourd'hui?
Il a 28 ans aujourd'hui.
28
et puis, on ne sait pas où il est.
Comment ça, on ne sait pas où il est?
Parce qu'en fait, les hôpitaux, nous habitons Bordeaux. Et en fait, à Bordeaux, l'hôpital psychiatrique Charles Perrin, c'est la catastrophe. Il y a énormément de maltraitance. Et mon fils est traumatisé parce que, vous voyez... Il y a à peu près les 12, non, la semaine, les 8, vendredi 8, excusez-moi, je ne suis pas très bien.
Oui, je comprends.
Et mon ex-mari, il est venu chez lui. Je suis chez mon fils actuellement parce que je l'attends. Ce qui va arriver, je ne sais pas, j'espère. Et il a décidé qu'il allait faire hospitaliser parce que, comme bon, il y a eu le décès de son grand-père du côté de mon ex-mari.
Ça fait un choc chez lui, j'imagine.
Oui, parce que mon fils, il lutte énormément, il fait énormément de sport, il ne veut pas de médicaments. Et il suit quand même une thérapie avec un psychiatre, mais sans médicaments.
Ah, et c'est compliqué ça.
Et il va dans les gyms, il va au GEM, mais c'est compliqué. Mais
il va au quoi, pardon?
Dans les groupes d'entraide mutuelle. C'est des groupes d'entraide mutuelle,
d'accord,
en fait,
oui.
Avec des jeunes qui sont malades.
Mm-hmm.
Mais en fait, mon fils, il ne veut pas. Il ne veut pas de médicaments. Et bon, il tient comme ça quand même. Mais le problème, c'est qu'il y a une semaine, ça va faire une semaine, mardi. Excusez-moi, vendredi, c'était les 8. Et mon ex-mari est passé chez lui. Et puis, il a vu que notre fils n'était pas bien. Et puis, il a demandé au reste de nos enfants et à moi et qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que moi, je me suis occupée de mon fils et puis sa maladie. Je ne le laisse pas, bien sûr. Mais bon, on ne vit pas ensemble. Mon fils, il vit tout seul.
D'accord.
Au centre de Bordeaux. Alors ici à Bordeaux, il n'y a pas comme à Paris qu'on appelle, il y a un service qui vient discrètement. Non, ici, il a dû appeler les pompiers, il a appelé la police.
Oui, donc traumatisme. Jade, je suis désolée, l'émission va se terminer. Si j'ai bien compris, il a été hospitalisé contre son gré et il s'est sauvé.
Oui,
et depuis, vous n'avez pas de nouvelles, c'est ça?
Non, et l'hôpital, il a menti. Il a dit à la police qu'il avait fini son parcours de soins.
Oui.
Parce que mes filles, elles sont allées à la police.
Jade, il faut vraiment qu'on arrête l'émission, se termine. Je suis désolée, c'est pas moi qui gère le temps. Je vous promets que vendredi prochain, si vous êtes disponible, on commence l'émission avec vous, d'accord? Et je croise les doigts pour que d'ici là, vous ayez des nouvelles.
D'accord.
Pardonnez-moi vraiment, il me reste 20 secondes, c'est très très court. Courage, oui, courage, Jade, et à vendredi prochain.
Merci.
Notre émission se termine. Pardon d'être obligée de finir aussi vite, c'est toujours un peu frustrant, je sais. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez à ce micro. Je vous retrouve quant à moi vendredi prochain avec le même plaisir. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Lorsqu'un ami traverse une tempête, une présence silencieuse est bien plus précieuse qu'un million de mots vides. Passez une bonne nuit.